Et ce soir, Marie, vous vous penchez sur le cas des acteurs du secteur culturel, mais en Espagne.
Oui, exactement. Alors, pour mieux connaître et comprendre les mesures prises ailleurs en Europe, nous sommes ce soir avec Élodie Borda-Chauvin. Bonsoir, vous êtes maîtresse de conférence en sociologie, spécialiste des politiques culturelles en Europe. Pouvez-vous, en préambule, nous rappeler comment fonctionne le système culturel public en Espagne ? Existe-t-il, par exemple, une culture subventionnée comme en France ?
En Espagne, la politique culturelle fonctionne pas exactement comme en France. On a quand même un ministère, mais à la différence de la France, ce ministère a connu beaucoup d'instabilité. Il a été supprimé à plusieurs reprises au moment des alternances avec l'arrivée du gouvernement de droite du PP. Et donc, il a été réinstallé pour la dernière fois avec l'arrivée du gouvernement du PSOE, et donc qui est l'actuel gouvernement en place. Donc, ils ont réinstallé ce ministère public de la culture et des sports en 2018.
Et comment le secteur culturel donc a-t-il vécu le confinement du printemps et quelles ont été les principales conséquences ?
Je pense qu'on peut faire un véritable parallèle avec la France, qui est à savoir que c'est un secteur qui a énormément souffert, qui est l'un de ceux qui a le plus souffert, et c'est justement ce que veulent mettre en avant les secteurs qui se mobilisent dans un mouvement qui s'appelle Alerta Roja, alerte rouge, pour justement alerter sur le fait qu'ils sont l'un des secteurs qui a été le plus affecté par la pandémie et du coup demander des aides spécifiques. Donc ce mouvement, il réunit plusieurs travailleurs du spectacle. Son nom, c'est Mouvement Uni des Travailleurs du Spectacle, ce qui donne l'acronyme MUTE. Et donc, ils ont un logo qui dit « Alerta Roja », alerte rouge, pour vraiment montrer à quel point ils sont dans de grandes difficultés. Donc, ce mouvement, il a structuré deux grandes manifestations en septembre, le 17 et le 30 septembre, pour interpeller le gouvernement sur le fait que c'est déjà un secteur qui avait été particulièrement fragilisé parce que l'Espagne appelle la décennie perdue, hein, qui a commencé avec la grave crise de 2008. Et du coup, ils rendent visible sur les mouvements sociaux avec le mot-clé « Hacemos eventos, we make events » en anglais, pour dire bah, « voilà, quand on ferme, quand notre festival est annulé, quand nos salles de spectacle sont fermées, on n'a plus de quoi vivre. » Pour reprendre le parallèle avec la France, il n'y a pas de statut d'intermittence du spectacle. C'est-à-dire que lorsque on veut demander un équivalent du chômage partiel, ce qui s'appelle là-bas les prestations sociales exceptionnelles pour cessation d'activité, eh bien, il faut avoir travaillé au moins 20 jours. Or, lorsqu'on travaille, par exemple, sur un concert, on va avoir un certain nombre de répétitions en amont du concert, bah, celles-ci, elles ne sont pas déclarées. Donc, si on a travaillé pendant 5 jours sur un festival, en fait, on va être déclaré qu'un seul jour. Donc, ce qui veut dire que de nombreux artistes, de nombreux travailleurs et travailleuses de la culture sont de fait laissés de côté par ces mesures qui ont été mises en œuvre par le gouvernement.
Mais alors, quelles sont les revendications de ce mouvement Alerte Rouge dont vous parlez ?
L'une de ces revendications est justement d'avoir une prise en compte de la spécificité de ce secteur au-delà des effets de la pandémie, c'est-à-dire de véritables changements de fond, qu'on reconnaisse que c'est un secteur avec une activité intermittente, saisonnière, et qui devrait avoir un régime de cotisation et de protection sociale ad hoc, notamment pouvoir obtenir le chômage pendant les périodes d'inactivité. Et l'autre chose intéressante que ce mouvement met en lumière, selon moi, c'est le fait que on a tendance à considérer que la culture, ce sont les artistes, et que du coup, dans les premières mesures qui avaient été données par le gouvernement, les métiers techniques étaient oubliés, en fait, des mesures d'urgence. Donc, par exemple, dans l'audiovisuel, un ingénieur du son, des régisseurs lumière pour les salles de spectacle. Et donc, ils font partie des collectifs moteurs de ce mouvement, donc qui réunit une trentaine d'organisations et donc qui a mobilisé dans 27 villes en Espagne de différentes tailles, aux Baléares, aux Canaries. Donc il y a vraiment eu un mouvement d'ampleur. et que cette crise, elle révèle en fait une précarité de ces mondes de l'art et de la culture, pour reprendre le concept de Becker, qui ne repose pas uniquement sur des artistes. Et un autre effet positif, il me semble, de cette mobilisation, c'est la création de structures d'organisation collective. Par exemple, dans les arts lyriques, un syndicat est en train de voir le jour alors qu'il n'existait pas jusqu'à présent.
On le comprend dans ce qu'on vient d'entendre, parfois les crises sont des moments propices à des prises de conscience plus larges.
Oui, Élodie Borda-Chauvin, est-ce que l'on peut dire que ce mouvement Alerte Rouge dont vous venez de nous parler est né de la pandémie, ou alors est-ce qu'il était en gestation avant et la crise en a été le déclencheur ?
Je pense qu'elle est née d'une exacerbation de la crise avec la pandémie, mais il y avait déjà des particularités de ce secteur et un affaiblissement, puisqu'on parle de décennies perdues. Donc c'était un secteur qui connaissait déjà des difficultés. Et juste pour souligner que l'Espagne est un des pays de l'OCDE qui est le plus touché par la crise économique à la suite de la pandémie.
Dans les aides consenties, plus généralement, y a-t-il un fléchage particulier vers des pans de la culture ?
Alors, les mesures qui sont mises en œuvre en Espagne sont des mesures qu'on peut trouver au niveau européen, avec des financements à court terme pour les entreprises, des subventions, des aides aux artistes, des aides individuelles, des compensations de perte de revenus et surtout des avances sur recettes et des prêts. Un partenariat a été mis en place avec une structure, une espèce de banque. Après, l'une des originalités du gouvernement, donc gouvernement de coalition de gauche, qui est beaucoup plus favorable au secteur de la culture que le gouvernement précédent. Par exemple, avant la pandémie, dès son arrivée au pouvoir, il a réduit la TVA sur les tickets d'entrée de cinéma, qui était à 21%, il les a baissés à 10%. Mais pour moi, la plus grande originalité des mesures mises en œuvre par ce gouvernement, c'est une campagne qu'ils ont appelée « La cultura es segura ». La culture est sûre, la culture illumine. Donc c'est une campagne qui a été lancée le 10 octobre par le ministre Rodríguez Uribes et qui veut mettre en avant que la culture est nécessaire, dans le sens où lorsqu'on va à un festival, lorsqu'on va dans une salle de spectacle, les mesures de distanciation physique sont respectées. C'est-à-dire qu'on expliquait aux Espagnols qu'ils ont moins de chances d'attraper ce virus dans une salle de spectacle que dans un avion où ces distances ne sont pas respectées. Donc avec une incitation pour que les Espagnols continuent à soutenir leur secteur culturel en allant au spectacle. Maintenant, bon, ça c'était avant l'aggravation de la pandémie. Une autre différence avec la France, c'est qu'en Espagne, le gouvernement ne décrète pas au niveau national un confinement général, mais qu'il le fait en concertation avec les communautés autonomes. Et donc, la communauté autonome de Catalogne, qui est l'une des communautés qui a la politique culturelle la plus forte, la plus institutionnalisée, a décrété hier la fermeture totale pour 15 jours de ses théâtres, et notamment du célèbre théâtre lyrique du Liceo à Barcelone, là pour un mois. En revanche, à Madrid, par exemple, le gouvernement national a décrété un confinement et cette mesure a été annulée par un tribunal à la demande des autorités de Madrid, qui sont gouvernées par l'opposition, au nom d'un équilibre entre la santé et l'économie. Donc on parle d'un confinement beaucoup plus spécifique en Espagne, qui est le confinamiento perimetral, donc qui est plus localisé. On interdit les entrées et les sorties des villes ou des communautés autonomes. Je voulais vous remercier pour cette invitation et vous dire que si je peux participer à ce genre d'émission, c'est parce que je fais de la recherche, et si je peux faire de la recherche, c'est parce que j'ai un poste pérenne, un poste de fonctionnaire, et que tout cet écosystème de la recherche est mis en péril en France en ce moment par la loi de programmation de la recherche qui vient d'être adoptée au Sénat, et qu'une pétition qui s'appelle « Libérons la recherche » est actuellement en ligne et qu'elle a déjà réuni 25 000 signatures. Donc je vous invite à la consulter.
Merci beaucoup Élodie Borda-Chauvin.
Merci Marie Sorbier. À lundi.
À lundi.